L'édito avec Denis Robert.
Le torrent ultralibéral et productiviste charrie l'éradication des cultures, des modes de vie, des particularismes et des valeurs millénaires, transformant ainsi les humains en automates laids et stupides, adorateurs de fétiches. Pier Paolo Pasolini.
Quand j'écris un édito, il est souvent tard dans la nuit. J'ai généralement marné la journée en y pensant et en retardant le moment de passer à l'acte. Me viennent des choses éparses, généralement des histoires qui me sont arrivées, des citations, des sensations liées à des films ou à des livres, des vidéos absorbées sur les réseaux sociaux, des bouts de journaux télévisés. Je les assemble mentalement, j'y réfléchis. Je ne fais pas forcément tous les liens, c'est intuitif. Mais du marasme et du bruit, de la tristesse de voir le piège se refermer sur nous encore et encore, des images et des mots finissent par émerger. La réalité, sa fabrication, son inversion, le contrôle de l'information. C'est de cela qu'il va s'agir ici.
New York Herald Tribune. New York Herald Tribune.
Devant nos yeux lasses et incrédules, un étrange phénomène s'opère. Appelons cela l'inversion de la réalité. Réalité, inversion. La juxtaposition de ces deux mots commence à ressembler à quelque chose. Il y a d'abord eu Dossier 51, le film de Michel Deville, que j'ai revu avec plaisir à l'occasion de mon entretien sur les espions à la solde de la Russie avec le journaliste Vincent Jauvert. Au début, je ne cherchais qu'un extrait. Et puis j'ai retrouvé le DVD et je me suis laissé prendre. Sorti en 1978, adapté d'un roman de mon vieil ami Gilles Perrault, « Paix à ton âme, Gilles ». Tu sais, ici, la situation s'est endurcie et notre rapport à la vérité s'est voilé depuis ton départ. Les livres n'ont plus la même importance. La réalisation de Dossier 51, tout en caméra subjective, est unique dans le paysage cinématographique. La magie tient à ce dispositif. On est dans la tête de plusieurs espions étrangers chargés de surveiller et de corrompre un haut fonctionnaire français. Ces espions qu'on imagine à la solde de Moscou ont pour mission de transformer un père de famille tranquille et sans histoire en un être dépravé.
Ah, le Sénat.
Exact. Quelques images du sujet d'abord. Enregistré à la suite de votre demande du 12 octobre.
Il est sénateur.
Non, Quai d'Orsay.
Le film est construit à partir de rapports d'écoute, de filatures, d'interviews de proches. Entre micro et caméra planquée, fuite savamment orchestrée, les espions fabriquent sans aucun affect, un univers, et inverse la réalité de cet homme qui perd peu à peu pied. La fascination tient à la manière avec laquelle Deville filme cette histoire vraie et montre comment les espions se servent du passé pour le changer et fabriquer un présent à leur cible, sans qu'elle puisse échapper à son destin. 1978, Giscard était encore président et Mitterrand, même s'il en rêvait, ne croyait pas vraiment à ses chances. Vladimir Poutine avait 26 ans et entrait juste au KGB. Emmanuel Macron avait 6 mois et encore des couches quand le film est sorti.
Monsieur Land, vous ne pensez pas que c'est dangereux de nommer un homme aussi jeune et sans expérience à un ministère aussi crucial?
Ah non, ne vous inquiétez pas, hein. Emmanuel, il sait très bien ce qu'il veut.
MEDEF, MEDEF.
Vous avez vu, il progresse vite, hein.
Internet n'existait pas. Il n'y avait que 3 chaînes de télévision, dont une, Antenne 2, commençait à s'émanciper grâce à des types comme Charles Bukowski, complètement bourré, qui se faisait engueuler par Cavana en direct à la télévision.
Mais, Antonin Artaud, j'ai lu ses lettres qui ne sont pas...
Bukowski, shut up.
Bukowski, je vais te foutre mon pain dans la gueule.
Doucement, Cavana, doucement.
Ah, c'est pas vrai.
Chaque semaine, à Apostrophe, on dissertait sur la réalité et la fiction. C'était simple, basique, et ça se jouait en direct. Comme une grande messe pour gens informés. Il y avait le noir et le blanc, la presse de droite et la presse de gauche, le bien et le mal, et entre les deux, le gris, l'endroit où se baladaient des espions, des barbouzes, des agents doubles et des hommes politiques avec des mallettes et des costumes noirs, cravates sombres. En 45 ans, ce monde-là a explosé. Notre rapport à l'information d'abord. La fibre, les réseaux, les puces, les écrans. Les informations qui viennent à nos cerveaux utilisent des dizaines de milliers de canaux. Le pouvoir se joue et des guerres se gagnent ou se perdent dans cet univers infini et interconnecté. Les espions jouent dans le cyberespace, dont la pénétration et le contrôle est devenu un enjeu de survie pour tous les pays et toutes les multinationales. Les Kremlin Leaks ont secoué la planète cette semaine. Cette fuite de données provenant des autorités russes montre à quel point Moscou dépend aujourd'hui de son système numérique de désinformation. Le Monde le raconte sous la plume de Kevin Limonier, maître de conférence à l'Institut français de géopolitique. On réalise avec ces Kremlin Leaks combien l'autoritarisme russe est devenu dépendant de ces outils de contrôle numérique pour se maintenir et étouffer toute parole dissonante. Autrement dit, les dispositifs technologiques de contrôle de l'information sont de plus en plus indispensables à la survie du régime russe, du régime iranien aussi, et égyptien, israélien, chinois, américain, indien. J'arrête là. Mais disons que les Russes, KGB oblige, ont une longueur d'avance. Je parle de renseignement et de contrôle de l'information, pas d'économie, où les USA et le fonds BlackRock ont le vent en poupe sous Biden. Et les Chinois, contrairement aux prévisions, sont en perte de croissance. Dans 50 ans, le pays le plus riche du monde, selon le Financial Times, pourrait être l'Inde. Les fuites récentes de données montrent que des hommes peuvent interférer dans les systèmes réputés verrouillés du cyberespace. C'est la bonne nouvelle des Kremlin Leaks. Même dans les technologies les plus froides et les plus contrôlées, des petites mains et de grands esprits peuvent résister. Julian Assange, j'en pense à toi, toi qui as ouvert la voie. On ne sait plus quel mot trouver face à ton enfermement. Poutine a fini par éliminer Navalny. Espérons que pour toi, la digue tienne. Les Kremlin Leaks montrent que le pilotage des appareils visant à contrôler l'information et à lutter contre les menaces étrangères a des failles. Les Russes, même s'ils restent très forts, ne pourront pas continuer indéfiniment à bloquer tous les contenus jugés indésirables. On peut d'ailleurs postuler que plus la guerre en Ukraine durera et plus la lassitude gagnera la population, plus ces dispositifs joueront un rôle déterminant. L'impressionnant édifice du contrôle cyber et informationnel ne repose donc pas toujours sur des bases stables et des leviers existent. Libre à nous, nation démocratique, de nous en servir, conclut Limonier. J'avais en tête ces lignes en regardant deux films diffusés par France 5 ces derniers jours. Le documentaire reste le meilleur vecteur pour s'informer. Le film sur Navalny d'abord. Robert Bresson avait raconté, en 1956, l'évasion d'un résistant de la prison de Montluc à Lyon, dont un condamné à mort s'est échappé. Daniel Roer, 68 ans après, fait complètement l'inverse. Un condamné à mort s'est enfermé. On suit Alexei Navalny dans son exil allemand. On suit sa contre-enquête qui démontre de manière implacable comment Poutine l'a fait empoisonner et comment lui s'en est sorti. On repart à ses côtés à Moscou et puis il y a ces mots qu'il balance en souriant. Il lâche à son attaché de presse, vaguement dépité, « C'est juste que c'est un documentaire qui sortira que si je me fais buter. » On sent qu'il n'y croit pas vraiment. Ça rend son témoignage et ce film que les Russes ne verront jamais à la télévision absolument déchirant.
Mon message, dans le cas où on m'assassinerait, est très simple. De ne surtout pas abandonner.
Il y avait un autre film, toujours sur France 5, Russie, un peuple qui marche au pas. Et dans ce film, vers la fin, une séquence. Natacha Markovitch, psychologue de son état, exilée à Londres, se demande ce qui pousse Ludmila, sa vieille mère de 83 ans, vive et intelligente, restée au pays, à glorifier Poutine. Elle explique que le peuple russe montre des signes inquiétants de folie collective, comme s'ils appartenaient à une secte, dit-elle. Et elle développe. Quand votre vie n'a plus de sens, quand vous n'avez plus confiance en vous et au monde qui vous entoure, il suffit qu'un homme vous redonne une raison d'être, vous renvoie un minimum de fierté, qu'il vous mette dans la tête que vous n'êtes ni nul, ni bête, ni dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est dégueulasse ?
Vous devenez la particule élémentaire d'un ensemble plus grand. Ici, la Russie. Mais ça marche aussi avec d'autres pays. Par une force d'effet vital, à force de l'entendre et de le voir sur vos écrans, vous vous mettez à aimer cette grande nation, son ou ses dirigeants. Et tous ceux qui disent le contraire passent pour des ennemis, des dégénérés ou des islamo-gauchistes. Vous vous mettez à croire à quelque chose qui est le parfait inverse de la réalité. La dame dans le film appelle ce phénomène une psychose de masse induite. Ne cherchez pas, c'est une pathologie qu'elle a inventée.
C'est ce qu'on appelle une psychose de masse induite. Quand la guerre a commencé, j'ai tout de suite vu les signes typiques d'appartenance à une secte. Comment ça fonctionne? Vous ne vous sentez pas confiant à l'intérieur, vous avez l'impression que votre vie n'a pas vraiment de sens. Et puis un homme arrive et vous donne une structure extérieure, une raison d'être.
Les psychoses de masse existent. Ce sont des phénomènes largement décrits par la science. Elles sont comme des épidémies psychiques pendant lesquelles un groupe ou une population perd le contact avec la réalité. De masse, on comprend, mais induite. Par quoi? Par qui? Ici, c'est simple. Par la propagande du pouvoir et principalement par la télévision d'État. La contagion est produite et légitimée par le pouvoir et les médias. Le délire devient collectif et imprègne les discours dominants. On le voit en Russie. On l'a vu aussi en Chine et en Europe au moment du Covid. On l'a vu aux USA, principalement quand Donald Trump, bien aidé par le démentiel mouvement QAnon, s'accrochait au pouvoir. Une idée délirante ou paranoïaque infuse en s'attaquant d'abord aux plus fragiles, aux moins informés. Puis elle gagne en puissance, en raffinement, en efficacité. À travers les réseaux, le virus de la peur et des solutions faciles se propage à grande vitesse. La science a étudié ces phénomènes. Des conditions sont nécessaires pour qu'advienne cette psychose de masse. L'absence de lien social, une solitude, un manque de reconnaissance, un travail dévalorisant ou pas de travail du tout, une dépossession, une anxiété dite flottante pouvant amener des crises d'angoisse, voire de panique. N'allez pas chercher trop loin. Voyez comme au fin fond de la Corrèze ou du côté de Saint-Brévin, on commence à avoir peur des hordes de migrants. Alors que bon, on les cherche en vain. Lorsque ces conditions préalables, pauvreté, anxiété, isolement, sont présentes au sein d'une population, si les médias fournissent un récit qui indique un objet dangereux pour cible, qui permet à l'anxiété de se focaliser, alors toutes les anxiétés vont s'y accrocher. Si on propose en même temps une stratégie pour lutter contre ce danger, la foule suivra la stratégie pour combattre cet objet d'anxiété. C'est ainsi qu'on invente des grands remplacements, puis des France aux Français. C'est ainsi qu'on invente des jeunes des quartiers, tueurs de jeunes des villages. Puis des Français, réveille-toi, tu es ici chez toi. Des pays qui rejettent les migrants loin de leurs côtes et des cadavres qui flottent en Méditerranée. Marion Maréchal Le Pen et Jordan Bardella ont bâti leur campagne pour les Européennes sur cette dinguerie de grand remplacement, d'islamisation du pays, de guerre de civilisation.
Nous sommes une civilisation. La civilisation. Tout est là, dans cet antidote à la barbarie et à la sauvagerie. Dans ce mot qui est poli par les siècles et qui est un écrin de la culture et de l'histoire.
À écouter les débats sur CNews, on est à deux doigts d'une guerre civile entre catholiques et musulmans. Pour ça, le premier meeting de Marion Maréchal Le Pen était un must. Comme elle est loin derrière Bardella dans les sondages, elle en rajoute des caisses. Il y a désormais deux peuples sur notre terre, deux France qui se font face, deux France qui ne rient plus aux mêmes joies. Nous sommes là pour porter la voix de la résistance et de la reconquête en France et en Europe. Sharia et Ramadan pour tous, mariage forcé et lecture de drag queen dans nos bibliothèques, tout y est passé, relayé par la chaîne France Info. C'est quand même la honte de voir le service public se compromettre à ce point. Même BFM et LCI n'ont pas osé diffuser ce chapelet délirant de bobards et d'affabulations malsaines en direct. Deux France qui ne rient plus aux mêmes joies. Mais où est-elle allée chercher ça? Revenons au réel, pas au sondage. François Île-de-France diffusait le mois dernier les doléances. Vous vous souvenez que Macron, après les Gilets jaunes, avait demandé aux Français d'écrire leurs doléances dans des cahiers et qu'ils déposaient en mairie ou sur un site internet dédié. 2 millions de citoyens s'étaient prêtés au jeu, donnant une photographie multiforme, émouvante, politique, intime du pays. Une image juste et réelle, car les doléances étaient déposées sans contrainte, sans pression. Il n'y avait pas de questions débiles comme « Pensez-vous qu'il y a trop de migrants en France ?» ou « Préférez-vous une mosquée ou une église dans votre village normand ?» Ce n'était pas un petit sondage vicié en mode CSA Bolloré portant sur 1000 personnes. Souvenez-vous des 71% de Français qui choisissaient la préférence nationale en matière d'emploi. C'était en fin d'année dernière. Ils nous ont bassinés pendant une semaine avec cette post-vérité. Non, là, c'était libre, la question était ouverte. Chacun demandait ou s'inquiétait de ce qu'il voulait. Des universitaires ont dépouillé et analysé les 2 millions de réponses. Et là, qu'ont-ils découvert? Que les questions de sécurité et d'immigration ne représentaient que 5% des doléances des Français. Bien loin derrière les questions de santé et de pouvoir d'achat. 5%.
Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours. Pourquoi le soir, maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café. Pourquoi maman fait souvent des nouilles passer le 15 du mois.
On voit bien avec ce chiffre que la peur des étrangers, la folie sécuritaire, est d'abord une invention de sondeurs actionnée par l'extrême droite et leurs médias tam-tam. Une fabrication de mauvais génie qui inverse le réel. Vincent Bolloré, sa clique, sa stratégie de reconquête, lui et ses affidés, sont venus jouer les fiers à bras ensuite à l'Assemblée nationale. Quel spectacle piteux. On a beaucoup glosé sur ces acquisitions de Bolloré dans les médias, en oubliant l'édition. En rachetant une maison au passé glorieux comme Fayard pour éditer des militants nationalistes comme Bardella, Bolloré se sert du passé pour réécrire le présent et le ripolliner. Il véhicule des idées nauséabondes et discriminantes en se payant l'honorabilité de l'éditeur de Bourdieu et de Debord. Ce n'est plus la société du spectacle, c'est l'avènement du mépris. En France, comme en Russie, à force de manger des fake news, les esprits faibles et angoissés commencent à sérieusement vriller et l'onde se propage. Sur Internet, de nombreux psys documentent ces poussées contagieuses de psychose de masse induite. Ainsi, cette psychologue clinicienne et enseignante à Paris, Maria Ejnar, qui explique que cette bataille collective et héroïque contre l'objet désigné dangereux offre aux individus un nouveau type de lien. Elle offre un nouveau but et une possibilité de création de sens. Lorsque les gens expérimentent cette forme d'intoxication mentale, peu importe que le récit proposé soit manifestement faux. On observe même une résistance à comprendre que le récit est faux. Le déni de la réalité manifeste empêche de revenir à l'état antérieur d'anxiété flottante si douloureuse. Observez ce qui s'est passé à Sciences Po la semaine dernière. Sciences Po où le deux poids deux mesures fait tâche. Sciences Po où des étudiants manifestent contre l'avis des profs et d'une partie de leur administration un soutien à la Palestine en organisant une conférence dans un amphi. Une militante d'une ligue juive soutenant la politique d'Israël et de Netanyahou cherche à entrer et le repousser car connu pour ses activités et ses photos d'étudiants pro-palestiniens publiées contre leur gré sur les réseaux sociaux. Elle est interdite d'entrer. Ses amis militants sionistes peuvent entrer, eux, pas elle. Une fake news est lancée selon laquelle elle aurait été repoussée parce que juive. Même elle reconnaît que c'est faux. J'en parle ici car un journaliste de Blast était sur place. Ce qui apparaît improbable dans cette histoire qui va enflammer les médias, c'est le déni de réalité, sa distorsion, son inversion. Ce qui apparaît encore plus fou, c'est la contamination qui gagne jusqu'au plus haut niveau de l'État. Un président de la République, puis son premier ministre, on se demande qui et comment ils sont informés, vont sauter sur Sciences Po pour dénoncer un acte antisémite, alors qu'il n'était pas antisémite.
Gabriel Attal est allé hier soir rue Saint-Guillaume, dans ce temple hier de l'intelligence et de la culture, dévoyé depuis par la bêtise et l'intolérance qui porte un nom, le wokisme.
À la télévision, ça donne des scènes surréalistes. Sur BFM, une animatrice lance à un étudiant « Mais vous n'allez quand même pas nous dire qu'il ne s'est rien passé alors qu'un Premier ministre dénonce une attaque antisémite ?» Distorsion. Les faits ne collent pas avec l'idéologie, avec l'ambiance et les autoroutes de leur pensée. On les réinvente. Inversion. Même 3 ou 4 jours après l'incident, des philosophes à 2 balles en rajoutent.
Un nom de juif, c'est obligatoirement un sioniste, donc c'est quelqu'un qui correspond à l'idée que les gens du Hamas se font du juif. Je ne dis pas qu'il est juif, hein. Et ben oui, ça fonctionne. Et puis vous avez derrière une espèce de jeunesse à peu près inculte qui estime qu'elle est du côté de l'Empire du Bien.
Mais tu t'es connu mieux inspiré, Michel. Quel naufrage. L'inversion du réel. On est en plein dedans. Les gens intoxiqués, souffrant de cette psychose de masse, deviennent intolérants à l'égard des voix dissidentes qui menacent de rompre l'équilibre fragile qui s'est construit et qui se solidifie avec le temps. Ça fonctionne ainsi à l'extrême droite, ça fonctionne aussi comme ça chez les champions du complot qui poussent le bouchon de plus en plus loin. Les faits ne comptent plus pour les personnes dans cet état, d'où l'importance des journalistes et la nécessité de les voir retrouver de l'indépendance et de la crédibilité. On est là pour ça. On est là pour cette raison. D'où la nécessité de renouer avec un minimum de quiétude et de crédit au plus haut niveau de l'État.
Et c'est lui qui le voulait, c'est sa mesure. C'est la mesure du gouvernement, elle était dans le projet de loi.
Emmanuel Macron n'en a plus rien à foutre de la vérité. Il passe 1 an et demi à défendre une mesure. Il est incapable de la faire voter. Et derrière, il dit...
C'est pas sérieux.
Il vit dans un monde fantasmé qui est le sien, où ses mots dictent le réel. C'est pas sérieux, pourquoi ? Parce que je le dis, oui mais hier tu disais le contraire, On s'en fout aujourd'hui, je dis ça. Full Trump, c'est du Trump.
Si vous trichez, si vous truquez des chiffres, si vous voulez nous imposer des guerres, des remaniements ministériels, des lois liberticides ou des réformes des retraites, faites-le au moins habilement. N'ajoutez pas de l'anxiété à l'anxiété, à l'anxiété et au néant. Qu'y a-t-il de plus stable que le néant ? Pas vrai, monsieur Macron ? En 1834, Victor Hugo a brossé le portrait d'un homme qui n'a rien de vibrant ni d'élastique, qui est composé de molécules inertes, qui ne résonne au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui a des colères glacées, des haines mornes, des emportements sans émotion, qui prend feu sans s'échauffer, dont la capacité calorique est nulle et qu'on dirait fait de bois. Cet homme flambe par un bout et reste froid par l'autre, raconte Victor Hugo. Sa description est longue, mais je poursuis ma lecture car elle sonne tellement juste, même 200 ans plus tard. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'est la ténacité. Il était fier d'être tenace et se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et qui, à certaines distances, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme, donc, avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et ça lui sert de rallonge. Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, si nous examinons d'après les décombres qui ont gisé à terre de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été aveuglément construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait. Il y a par le monde beaucoup de ces petites fatalités têtues qui se croient providence, écrit Victor Hugo, qui campait là le portrait d'un prisonnier appelé Claude Gueux. Il ne vous fait penser à personne, ce Claude Gueux ? On vit dans une société brutale, une société du mépris, comme la nomme le philosophe allemand Axel Honneth. Je ne vais pas ressortir ici les statistiques de l'INSEE sur la pauvreté, elles grimpent inexorablement. Tandis qu'en haut, tout en haut, ça se goinfre comme jamais. Emmanuel Macron restera le président de ce grand écart, l'homme providentiel des super-riches. Lui, ses ministres, ses députés, avant d'être les poseurs de tapis de l'extrême droite, sont les tapissiers et les champions toutes catégories du néolibéralisme. Ils en ont fait notre environnement immuable, permanent, privilégiant les industries fossiles, l'armement, les autoroutes à Castres et les bassines à Sainte-Soline, luttant contre la fraude sociale, mais si permissif avec la fraude fiscale. Comment expliquer que les médias l'oublient à ce point ? Il est important que le prix d'une vie soit rappelé aux politiques. Dans les sentiments exécrables qui nous sont quotidiennement montrés, la vanité et la fausse modestie nous énervent. Mais l'empathie feinte de certains politiques, c'est pire, c'est insupportable. Ils font croire qu'ils s'intéressent aux pauvres gens alors qu'ils ont mis en place un maillage et une police qui nous empêchent de bouger. Ils ont fait passer l'idée que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Un des paradoxes centraux de l'époque présente tient sans doute au fait que ces contradictions ne sont plus perçues comme étant liées au capitalisme, puisque les sujets ont appris, en tant qu'entrepreneurs d'eux-mêmes, à assumer la responsabilité de leur destin. C'est ce que dit Axel Honneth. Tout ça pourrait ressembler à une chute. Mais difficile de finir cet édito sans laisser une dernière fois la parole à feu Alexei Navalny. Il montre un chemin. Si lui a tenu bon et sacrifié sa vie, pour nous, c'est du billard. Allez, salut.
S'il vous plaît, donnez-moi votre réponse en russe.
Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.